Expert.
Bonjour et bienvenue sur Radio J, il est 7h, nous sommes le lundi 18 novembre 2024, on est ensemble jusqu'à 9h, à suivre le journal avec les studios Qualita.
Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem.
Et nous retrouvons notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Daniel, bonjour et Boker Tov.
Bonjour, Boker Tov.
Nous commencerons ce journal ce matin encore avec l'annonce de la mort de deux soldats dans la bande de Gaza.
Oui, effectivement, il s'agit du capitaine Yogev Pazi, 22 ans, de Gvaot Bar, combattant de la brigade Kfir, et du sergent Noam Etan, 21 ans, de Hadera, lui aussi combattant de la brigade Kfir. Le capitaine Yogev Pazi est le neveu de l'ancien ministre et ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot, qui avait déjà perdu il y a 11 mois son fils Gal et un autre neveu le lendemain, Maor Cohen. Dès hier matin, nous avions annoncé le décès d'un troisième soldat, Idan Kenan, lui aussi combattant de la brigade Kfir, que leur souvenir soit payé.
Le Hezbollah et le Liban ont apparemment remis hier aux Américains leur réponse à la proposition américaine de cesser le feu.
Oui, et d'une manière générale, il semble que cette réponse, dont on ne connaît pas encore les détails, soit plutôt encourageante. Selon la chaîne libanaise LBCI, le Liban aurait accepté sur le principe les clauses de l'accord et qu'à la suite de cette réponse, l'émissaire américain Amos Hochstein ait décidé d'arriver dès demain à Beyrouth pour promouvoir les discussions et tenter donc d'aboutir, finaliser à un accord de cessez-le-feu. Selon certaines sources, même la réponse du Hezbollah laisse penser qu'il est favorable à un accord. On sait qu'apparemment le mouvement chiite a accepté le principe d'un retrait de ses forces jusqu'au Litanie, mais que le mouvement refuse de donner carte blanche à Israël pour opérer aussi le Liban librement en cas de violation de cet accord. Pour tenter de trouver un compromis sur ce point, les Américains envisagent d'être ceux qui contrôleront si oui ou non il y a violation de l'accord de la part du Hezbollah.
Et puis sur le terrain, Daniel, Tzahal continue à frapper durement le mouvement terroriste chiite.
Et il est probable que ces frappes ont eu un impact sur la réponse apparemment favorable donc du Hezbollah. Hier, Tzahal a reconnu avoir éliminé le porte-parole du Hezbollah et son préposé à la propagande, Mohamed Adi Afif. Dans un communiqué publié par Tzahal, on apprend qu'Afif était directement impliqué dans l'activité militaire et terroriste du mouvement chiite. C'est lui qui aurait été impliqué dans l'envoi du drone offensif contre la ville, de Binyamin Netanyahu à Césarée il y a quelques semaines. Le lieutenant-colonel Oren Schinder, qui commande un bataillon blindé au sud Liban, a déclaré hier que Tzahal a affaibli le Hezbollah au sud Liban. Nous avons été surpris par le manque d'organisation et la faiblesse du mouvement terroriste qui de facto ne fonctionne plus comme une force militaire coordonnée et ne parvient plus à donner des ordres à ses unités sur le terrain.
Et puis la question des otages a été hier au cœur d'une réunion des responsables sécuritaires israéliens avec le ministre de la Défense, Israël Katz.
Oui, au cours de cette réunion, les principaux responsables de la sécurité, à savoir le chef du Mossad, le chef du Shin Bet et le chef d'état-major de Tzahal, sont tombés d'accord pour affirmer qu'il serait souhaitable qu'Israël accepte de céder aux exigences actuelles du Hamas afin de pouvoir ramener les otages au pays, et ce même au prix de la fin de la guerre. Il n'y a pas d'autre solution pour ramener les otages au pays, ont affirmé ces responsables sécuritaires selon certaines sources. Au cours de la réunion, le ministre Israël Katz aurait reçu des responsables sécuritaires des documents secrets sur l'état de santé dramatique des otages, ce qui aurait fait dire au nouveau ministre de la Défense que, je cite, « la libération des otages est l'objectif moral le plus important de la guerre ». Fin de citation.
Et puis du côté du Hamas, la tension semble grimper entre la direction du mouvement terroriste et le Qatar.
Oui, en effet, alors que la médiation qatari sur un accord de libération des otages se fait nettement plus discrète, comme on l'a appris depuis un peu plus d'une semaine, force est de constater que les membres de la direction du Hamas ont quitté Doha pour s'installer en Turquie, à Ankara en particulier. Selon des sources diplomatiques, le bureau politique du Hamas ne sert plus ses objectifs, une manière polie pour les Qataris de montrer la porte aux dirigeants du Hamas, et une source américaine a confirmé en déclarant « les dirigeants du Hamas n'ont plus leur place dans un État qui est aujourd'hui partenaire ouvertement des États-Unis, à savoir le Qatar ».
Et enfin, nous terminerons sur une bonne nouvelle qui ne vous a certainement pas échappé.
Oui, effectivement, après avoir fait un honorable match nul 0-0 au Stade de France la semaine dernière contre les Bleus, la sélection israélienne a battu hier la Belgique 1-0 en Ligue des Nations. Le match s'est tenu à Budapest. C'est Yarden Chua qui a marqué le but pour Israël. La Belgique est classée au 8e rang dans le classement des nations en football. Et malgré ces deux résultats, toutefois, l'État d'Israël se voit relégué en Ligue B parce qu'il a terminé à la dernière place de son groupe.
Eh bien, merci Daniel, on vous retrouve dans 30 minutes pour faire un point cette fois sur la revue de la presse israélienne. Mauvaise nouvelle, il pleut sur la moitié nord du pays, de la Bretagne au Grand Est en passant par l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Plus au sud, la grisaille se maintient avec ce matin des nuages bas, des bandes brouillards et puis quelques bruines locales aussi. L'après-midi, les brouillards vont se dissiper avec quelques éclaircies qui se dessinent par endroits. Quelques gouttes vont tomber encore sur le littoral atlantique. Plus au sud encore, en Corse et du piémont pyrénéen aux Alpes, en franchissant les Cévennes, le ciel est voilé avec un peu de grisaille au pied des Pyrénées et puis sur les côtes varoises également. Les tramontanes sont aussi pour souffler un vent d'ouest aussi sur la Corse. En Israël, il pleut également ce matin à Haïfa et à Tel Aviv avec quelques éclaircies. Il fait 18 degrés ce matin à Tel Aviv, 17 degrés à Haïfa, 14 degrés à Jérusalem et puis 17 degrés à Eilat.
Radio J. Radio J. Le 6-9.
Charlène Villemer.
Radio J.
Et nous retrouvons à présent Daniel Rouache, président d'honneur de la Chambre de commerce Israël-France. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Charlène. Je vous confirme, il y a une pluie absolument impressionnante là où je suis.
Eh ben voilà.
À côté de Rishon LeZion.
Merci d'être avec nous comme chaque lundi. Alors, on va rappeler, Donald Trump a été élu 47e président des États-Unis le 5 novembre dernier. Vous nous parlez ce matin de sa victoire et puis des conséquences sur le high-tech israélien, Daniel.
Écoutez, très franchement, cette victoire de Trump était finalement attendue ici en Israël, et le monde de la high-tech est absolument euphorique après cette victoire. Je viens de passer 2 semaines aux États-Unis, précisément à New York, pour l'écriture en américain du livre que j'ai écrit avec Edouard Kukerman, Israël, Valley, le bouclier technologique de l'innovation. Ma question permanente a été la suivante: quel secteur de coopération devrait s'améliorer entre Israël et les États-Unis avec la victoire de Trump? La réponse est très simple: le secteur de la défense, là je ne surprends personne, mais il y a un autre domaine, ce sont les crypto-monnaies. Il faut savoir que dans ce monde-là des crypto-monnaies, c'est le monde qui est de la fintech. La fintech est la contraction de finance et technologie. Il va y avoir une évolution très importante. Alors peu d'auditeurs le savent, mais Israël est le premier producteur de licorne aux États-Unis. Vous savez, une entreprise licorne est une start-up valorisée à plus d'un milliard de dollars. Et effectivement, Israël est très très bien placé. C'est un travail qui a été fait récemment. Un examen de 500 entreprises fondées par des citoyens non américains qui sont devenus des licornes aux États-Unis révèle une statistique étonnante. L'Inde est en tête avec 90 entreprises. Et Israël est en deuxième position avec 52 licornes. Donc, on peut s'imaginer que la coopération Israël-États-Unis est très, très forte. Alors, avec l'élection de Donald Trump, il va y avoir une évolution tout à fait favorable en matière d'innovation entre Israël et les États-Unis. D'abord, il va y avoir un assouplissement de la réglementation parce qu'il existe des processus qui sont très importants et qui ralentissent l'évolution. Il va y avoir surtout, un encouragement des investissements conjoints. Vous savez, ces co-entreprises américaines et israéliennes qui ont de grandes chances de succès, il va y en avoir de plus en plus. Les fonds de capital risque et les incubateurs impliquent des investisseurs de deux pays peuvent maximiser l'intégration de la recherche et développement israélienne avec les principes du marché américain. Et on s'attend également que les technologies israéliennes vont franchir de nombreux obstacles avant de pénétrer aux États-Unis. C'est ce qui a existé auparavant, mais ça va s'améliorer certainement avec l'époque de Trump.
D'accord.
Alors, ce qu'il faut savoir, et ça fait partie des résultats de mes différentes interviews aux États-Unis, un des secteurs donc qui va bénéficier de la coopération bilatérale États-Unis-Israël, ce sont les crypto-monnaies. La crypto-monnaie, c'est un domaine très important pour Israël. C'est vraiment la start-up nation. C'est l'un des secteurs qui se développe le mieux. Et on le sait tous maintenant, l'envol des crypto-monnaies après la victoire de Trump a été vraiment spectaculaire. Et ici en Israël, vous avez de très nombreux Israéliens qui ont gagné beaucoup d'argent en l'espace de 2 semaines. Depuis le 6 novembre dernier, la victoire de Trump à la présidentielle américaine, les crypto-monnaies connaissent leur âge d'or. Trump veut d'ailleurs faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptos, peut-être avec l'aide du savoir-faire israélien qui est tout à fait réel, puisque nous avons en Israël des chercheurs dans ce secteur, des ingénieurs, une véritable industrie. En Israël, Bits of Gold, c'est une société qui est basée à la Bitcoin Embassy à Tel Aviv. Bits of Gold est le leader incontestable du marché. Et à Netanya, il y a une société qui s'appelle Starkware, qui a été cofondée il y a quelques années.
Oui.
C'est une start-up qui vient de lever 100 millions de dollars. Et on sait que les Américains vont continuer à investir dans cette société.
Très bien.
Elle est spécialisée dans les technologies de cryptographie.
Eh bien, merci beaucoup, Daniel. On vous retrouve lundi prochain pour nous refaire un point, évidemment, sur ce qui se passe dans le monde high-tech. Merci beaucoup.
Radio J, le 6-9, Charlène Villemer.
La chronique judaïsme au féminin, c'est tout de suite avec Maria Chadré.
Boker Tov, Shavuot Tov, et à l'occasion de la paracha de Chaye Sara, eh bien, nous allons nous arrêter sur le personnage de Rebecca. Rebecca qui est donc la deuxième des 4 matriarches d'Israël. Et cette semaine, donc, Eliezer est chargé de trouver une épouse pour Isaac. Et le critère qui lui est donné par Abraham, eh bien, c'est qu'il doit retourner dans sa famille. Il doit chercher dans la famille d'Abraham une épouse. Mais à cela, Eliezer ajoutera un deuxième critère quand il arrivera à Haran, à l'endroit où il cherche donc la jeune fille. Eh bien, il va faire une prière à Dieu et demander que se réalise le signe suivant. Celle qui me proposera à boire et qui également abreuvera mes nombreux chameaux, eh bien, elle sera destinée. Alors, il faut comprendre que ce critère, donc, parle de la mida, du trait de caractère qui est le chesed, le don. Et il y a d'ailleurs aussi un jeu de mots ici, puisque les chameaux en hébreu se disent gamal, et gamal, gemilut, c'est pourvoir, c'est donner en profusion. Alors, il faut bien comprendre qu'il y a 3 types de chesed. Et je dirais même un autre avant cela, qui n'est pas vraiment du chesed, mais la tzedaka. La tzedaka, c'est la justice. C'est juste de partager les richesses. Mais après, il y a 3 niveaux de chesed. Le premier niveau, c'est la capacité à répondre à une demande qui est exprimée. Quelqu'un vient nous demander quelque chose. Le deuxième niveau, c'est aller chercher le besoin non exprimé de l'autre. C'est ce qu'on appelle la Ahavat Hesed, aimer donner, aimer la générosité. Et le niveau supérieur, eh bien, c'est ce que l'on nomme Nosse Be'ol Im Chavero, c'est-à-dire porter la charge de l'autre. C'est non seulement aller chercher sa demande, mais être capable de porter sa peine, sa difficulté. Et Rebecca, justement, est celle qui répond à tous ces niveaux-là. C'est-à-dire qu'elle va aller proposer donc à Eliezer de l'eau alors qu'il n'exprime pas. Elle imagine qu'il en a peut-être aussi besoin pour ses chameaux. Et ensuite, elle va même porter sa peine, sa charge, lui proposer un gîte, etc. Et donc, on voit que le critère absolu pour trouver donc la bonne personne qui conviendra à Yitzhak, eh bien, c'est cette capacité maximale dans la générosité. Et on va voir un peu plus loin que lorsque Rebecca va rencontrer son futur mari Isaac, elle est encore une fois sur un chameau, Gamal, le don en profusion. Et elle va tomber littéralement de ce chameau. Il y a j'ai lu des commentaires assez merveilleux, je trouve, au niveau de l'image de cette chute, entre guillemets, du chameau. C'est dit le Chatam Sofer parce qu'elle veut préserver absolument sa mida, son trait de caractère, sa générosité, parce qu'en effet, elle rencontre Yitzhak qui, lui, est représenté par la rigueur absolue, par le monde strict et de discipline. Et en voyant Yitzhak, elle a un petit peu peur eh bien, que cela n'atteigne son chesed, sa générosité, que cela n'amoindrisse son chesed. Et donc, c'est l'expression donc, de cette chute du gamal, du chameau, mais tout de suite, elle va prendre un voile, le mettre sur elle, un peu comme pour protéger cette générosité. Alors on voit que vraiment le trait de caractère de bout en bout de Rebecca, c'est cette générosité de cœur, c'est une qualité essentielle effectivement, quiconque est également à la recherche de son partenaire, et bien en plus donner ce conseil, quand on voit, quand on repère chez une personne la générosité, il faut savoir que c'est, ça montre bien au-delà de cela, que c'est à l'origine de toutes les belles et les meilleures qualités de cœur qui existent chez une personne.
Vous retrouvez Maria Chadré et sa chronique Judaïsme au féminin en podcast sur l'application radioj.fr.
Radio J, le 6-9, Charlène Villemer.
7h15 sur Radio J, excellent réveil, nouveau point sur l'actualité avec le rappel des titres présenté par Eva Soto. Eva, bonjour.
Bonjour Charlène, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le 409e jour de guerre pour Israël et la mort de deux nouveaux soldats de Tzal. Le capitaine Yogev Padzi, 22 ans de Givat Bar, et le sergent Noam Etan, 21 ans de Hadera. Deux autres soldats ont été blessés lors de ces combats avec des terroristes dans la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza où s'est aussi rendu hier soir le général Tomer Bar, le commandant de l'armée de l'air de Tzal. Nos forces travaillent 24 heures sur 24 pour soutenir chaque unité au sol, a-t-il dit. Sur le front nord, des milices irakiennes revendiquent le tir d'un drone contre Elat. Tzal a réussi à intercepter un engin tôt ce matin, mais un autre se serait crashé à Aqaba en Jordanie. Trois autres drones tirés aussi hier soir. L'armée israélienne qui par ailleurs a mené deux séries de frappes contre le secteur de Dahiyeh, fief du Hezbollah à Beyrouth au Liban hier. Le chef du système de communication du groupe terroriste y a été éliminé. Mohamed Afif se trouvait dans une installation souterraine. Amos Hochstein attendu au Liban demain. L'envoyé spécial américain pour le pays du Cèdre est sur place pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu alors que les écoles et les établissements d'enseignement supérieur seront fermés aujourd'hui et demain dans la capitale libanaise. Une mesure prise par le ministère de l'Éducation suite à des mises en garde d'Israël contre de nouvelles frappes. L'administration du président Joe Biden compte autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée pour attaquer en profondeur le territoire russe, ce qui constitue un changement important dans la politique de Washington dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et puis, une réunion d'urgence face à l'antisémitisme, c'est ce que réclame le ministre français chargé de l'Europe. Benjamin Haddad veut organiser le rendez-vous demain matin à Bruxelles.
Merci Eva, rendez-vous à 8h pour un nouveau journal complet sur Radio J.
Radio J.
Vous écoutez le 6-9, Charlène Villemer.
Excellent réveil à l'écoute de la matinale de Radio J. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Vous nous écoutez peut-être en prenant votre café, dans la voiture ou en direct sur YouTube. Et on vous remercie. On lit tous vos messages. Rejoignez-nous sur le live, le direct YouTube. Restez avec nous. Je vous donne le programme de la prochaine demi-heure. Dans moins de 30 minutes, rendez-vous à 7h45 pour l'édito politique de Christophe Barbier. Il sera avec vous. Eva Soto, est-ce que vous pouvez nous parler des sujets que vous allez aborder avec Christophe?
Oui, bien sûr, avec Christophe Barbier, nous parlerons de la tension à la SNCF, du début des plaidoiries au procès du Rassemblement National. Rassemblement National, donc Marine Le Pen à la barre des accusés. On en parlera avec Christophe Barbier. Et puis, on parlera bien évidemment aussi de Donald Trump et de cette guerre en Ukraine avec un changement de stratégie annoncé par Joe Biden.
Merci Eva. Et puis, juste avant la politique, évidemment, place à l'humour sur Radio J. Nos humoristes vous font rire chaque jour. Ce matin, on reçoit Nicolas Raffal qui va arriver en studio d'ici quelques minutes. Restez bien avec nous. Dans quelques instants à suivre, je vous parlerai des années 80. On replongera dans les années 80, mais pas n'importe quelle manière. On parlera du Talmud et des années 80. Vous allez voir, il y a un lien entre les deux.
Radio J.
Radio J.
Tous les lundis, 21h-22h.
Classico.
Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmeta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h, sur Radio J.
Radio J. Les voies du judaïsme de Maurice Ruben Ayoun. Bible, Talmud, Ashkenaz et Séfarade, pratiques synagogales et piété personnelle, tradition et réforme. C'est avec pédagogie que Maurice Ruben Ayoun nous fait voyager des origines à aujourd'hui. Cette galerie encyclopédique montre la fécondité intellectuelle qui a permis au judaïsme de ne jamais être en retard d'une modernité dans un attachement indéfectible à l'identité d'Israël. Les voies du judaïsme de Maurice Ruben Ayoun. Les éditions du Cerf. À livre riche, accessible, stimulant.
Radio J, le 6-9, Charlène Villemer.
À votre avis, quel est le point commun entre toutes ces chansons? Ça sonne très années 80, mais ce n'est pas ça. Il s'agit en réalité du Talmud. 80 from the 80s, c'est le nouveau projet du musicien Michael Hurst, célèbre pour son duo de rock klezmer One Ring Zero. Alors à travers ce nouveau challenge, eh bien Michael Hurst nous plonge dans le Talmud de la musique pop. Et pour ce projet très original, eh bien il a choisi sa compagne, Alyssa Lamb, son amie de longue date aussi, Claudia Gonson, et il invite d'autres chanteurs comme Tanya Donnelly, Jamie Lenman ou encore Amanda Palmer. Et ce n'est pas fini, puisque la liste s'allongerait à mesure que le projet fasse parler de lui. Nouveau projet, nouvel objectif pour Michael avec 80 from the 80s. Il publie une reprise des années 80 toutes les deux semaines jusqu'à ce qu'il en ait publié, vous me voyez venir, oui, 80. Il a compté, ses sorties bimensuelles prendront environ 3 ans. 3 années qui conduiront Michael Hurst à l'année de la bar mitzvah de son fils. Mais alors pourquoi les années 80? Je sais que vous vous posez la question, c'est tout simple. Il s'est rendu compte qu'en voiture avec son fils, la même question revenait très souvent. Et vous aussi, je suis sûre, vous vous la posez. Quelle décennie devrions-nous écouter? Et la réponse est toujours la même, les années 80. Le projet est en partie un hommage à l'enfance de Michael Hurst. Michael a grandi à Virginia Beach. La musique diffusée sur la station de radio K94 était l'art qui existait, a-t-il déclaré aux médias américains Forward. La musique était au cœur de la culture et de l'identité des années 80, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que dit Michael. Pour lui, il y avait un répertoire concis de chansons que tout le monde entendait à la radio ou bien à la patinoire à l'époque. Pour un musicien qui a passé l'essentiel eh bien, de sa carrière à composer, que ce soit pour des films ou encore des groupes, retravailler les chansons d'autres artistes, c'est un vrai défi. Mais pour ceux qui ont grandi avec les versions cultes, ça ne sert à rien de vouloir les réinventer, il les connaît très très bien. Et ce qui l'amuse le plus, Michael, c'est qu'il a la chance de pouvoir travailler avec des gens avec qui il n'a jamais travaillé auparavant. Il adore notamment collaborer, surtout quand ce sont des héros, donc tout d'un coup se retrouver en studio avec eux, c'est vraiment génial pour lui, c'est tout simplement un instant magique. Michael Hurst et sa compagne, Alyssa Lamb, ont commencé à jouer quelques chansons pour voir ce qu'il y avait sous le capot, comme on dit, et comment il pouvait les modifier. Il a alors fait une première tentative avec Africa de Toto, qu'on adore entendre évidemment sur Radio J. Mais pour Michael Hurst et Alyssa, eh bien cet essai, ce premier essai, il n'a pas été très convaincant. Ils ont donc refait une tentative avec le tube de 1983 de Matthew Wilder, Break My Stride, et là, ça a fait tilt pour eux. Alors en attendant le remix de Michael Hurst qu'on entendra peut-être très bientôt sur Radio J, Break My Stride de Matthew Wilder sur Radio J. Stride sur Radio J. Ça fait toujours plaisir de réécouter des sons des années 80. À suivre, Eva Soto avec son invitée. Ce matin, historienne et spécialiste de la Russie, elle reçoit Galia Ackermann.
Radio J. Radio J. Le 6-9.
Charlène Villemer.
Radio J.
Excellent réveil à notre écoute. Sur Radio J, Galia Ackermann est votre invitée ce matin, Eva Soto.
Galia Ackermann, bonjour.
Bonjour, Eva.
Vous êtes spécialiste du monde post-soviétique et de la Russie. Vous êtes également responsable du site de géopolitique Desk Russie avec votre édito à lire sur la puissance de Donald Trump après son élection aux États-Unis. Galia Ackermann, quelles conséquences pour le conflit en Ukraine ?
C'est encore un peu tôt de le dire. En fait, non seulement Donald Trump a promis de régler ce conflit en 24 heures, probablement au détriment de l'Ukraine, mais les personnes qu'il a nommées jusque-là, qui ne sont pas encore confirmées par le Sénat, sont tous pratiquement des adversaires de la continuation de l'aide américaine à l'Ukraine.
Et Galia Ackermann, excusez-moi de vous interrompre, c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut lire la déclaration déstabilisante du président Zelensky qui a affirmé qu'il faudrait régler le conflit en Ukraine en 2025 par la négociation.
Je pense que Zelensky se rend compte des réalités dans le monde et il espère simplement, je pense, que maintenant, dans les deux mois qui restent aux démocrates, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer justement dans mon édito, l'administration américaine de Biden, encore de Biden, peut faire beaucoup pour l'Ukraine pour qu'elle soit en meilleure position à la table des négociations. Maintenant, vous savez, Donald Trump est un homme irascible. Donald Trump n'aime pas qu'on n'obéit pas à ses injonctions, en quelque sorte. Et donc, maintenant, il pense probablement que le conflit est réglable si il contraint l'Ukraine à céder les territoires déjà conquis par la Russie, spécialement le Donbass, et bien sûr sans même parler de la Crimée, mais il y aurait des garanties suffisantes pour l'Ukraine. Or, et c'est là que le bât blesse, c'est Poutine ne l'entend pas de cette façon. Pour lui, la négociation doit aboutir pratiquement à la capitulation de l'Ukraine, à son statut neutre, à l'interdiction d'avoir une armée conséquente. Et ce serait une sorte, pour Poutine, un nouveau Minsk. Vous vous souvenez les accords de Minsk concernant le Donbass en 14 et 15. Et donc, ce sera la partie remise pour les Russes.
Et Galia Ackermann, la lecture qu'il faut faire de Donald Trump lorsqu'il dit « je vais régler le conflit au Proche-Orient en 24 heures »,« je vais régler le conflit en Ukraine en 24 heures », est-ce que dans l'ordre mondial, c'est la force qui est en train de remplacer les choses ?
Pour Donald Trump, bien sûr, la force est ce qui importe. Donald Trump s'en fout de la démocratie et je pense que ce qu'il est en train de faire dans son propre pays, c'est d'instaurer un régime qu'on pourrait qualifier d'autocratique avec une verticale de pouvoir, comme chez Poutine, enfin peut-être pas avec les mêmes restrictions. Mais la question aussi est de savoir jusqu'où Poutine peut céder, parce que nous voyons que l'échiquier mondial est extrêmement compliqué. Donald Trump peut, par exemple, essayer d'influer sur le cours du pétrole et des hydrocarbures en général pour faire plier la Russie. On est
à une sorte de croisée des chemins, donc dossier qu'il importe de suivre. Je renvoie Galia Ackermann, à votre édito sur votre site hein, Desk Russie, à propos de l'analyse de ce qui est en train de se passer, notamment par rapport à Donald Trump et ce qu'il se passe en Russie et en Ukraine. Galia Ackermann, historienne et spécialiste du monde post-soviétique, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J.
Et merci à vous Eva Soto, je vous donne le programme. Dans quelques instants, nous recevrons Christophe Barbier pour son édito politique. Rendez-vous dans un quart d'heure, juste avant l'instant humoristique sur Radio J, comme chaque lundi. Nicolas Raffal sera avec nous.
Radio J, le 6-9, Charlène Villemer.
Radio J.
Bonjour et bienvenue sur Radio J, il est 7h30. Bon réveil en ce lundi 18 novembre 2024. Tout de suite, la revue de la presse israélienne avec les studios Kalita.
Le direct de Jérusalem vous est offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël.
keren-hayesod.fr.
Et nous retrouvons notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Daniel, bonjour et Boker Tov.
Bonjour Charlène, Boker Tov.
Les manchettes des quotidiens israéliens de ce matin sont des manchettes de douleur après la perte de nouveaux soldats.
Oui, effectivement, et ce matin les commentateurs écrivent justement sur ce sacrifice suprême après la mort ces derniers jours de plusieurs soldats tant dans la bande de Gaza qu'au sud Liban. Reinhard Sisror écrit en première page du Yediot Aharonot ce matin, trois cousins qui se sont présentés au combat sans poser de questions avec un dévouement qui est réservé à une génération de jeunes qui comprennent l'importance de l'ère que nous sommes en train de vivre. Il s'agit de la presse et les médias parlent de Gal et de Yogev, deux cousins qui avaient presque le même âge, les mêmes plaisirs, les mêmes joies, mais qui aussi partager le même sens des responsabilités. Yogev avait souffert de la perte de son cousin Gal Azenkot il y a un an, il y a 11 mois très exactement, à tel point qu'il s'était fait tatouer un dessin les représentant tous les deux. À l'époque, Yogev avait écrit symboliquement à son cousin disparu: où es-tu? Désormais, ils se sont retrouvés avec leur troisième cousin Maor Cohen. Il s'agit des trois membres de la famille de Gadi Azenkot, l'ancien chef d'état-major et l'ancien ministre, qui sont tombés au combat dans la bande de Gaza. Trois cousins qui ont su répondre présents à l'appel donc de l'armée israélienne.
Restons au Liban, Daniel, avec le Maariv qui révèle que le Hezbollah semble prêt à faire des concessions substantielles sur la voie d'un cessez-le-feu au nord.
Oui, en effet, selon le Maariv, le mouvement terroriste aurait accepté de se retirer le long du fleuve Litani, et cela est considéré comme un exploit qui confirme que le Hezbollah est considérablement affaibli et que les raids incessants de ces derniers jours dans le quartier de Darfia à Beyrouth commencent à porter leurs fruits. La principale pierre d'achoppement dans les pourparlers actuels reste l'exigence d'Israël de disposer d'une marge de manœuvre pour mener des opérations au sud Liban en cas de violation de l'accord par le Hezbollah. Dans le Israélium, Shachar Kleiman explique que le Hezbollah veut un accord, je cite, avec des trous, c'est-à-dire avec des clauses qui permettront au mouvement de survivre. Et Kleiman explique que dans l'armée libanaise, il y a des soldats chiites et que l'idée que ces soldats puissent confisquer des armes au Hezbollah n'est pas du tout réaliste. Le site N12 et la chaîne 12 citent ce matin des responsables iraniens qui pressent le Liban et le Hezbollah d'accepter la proposition de cessez-le-feu américaine.
Et ce matin encore, le Yediot Aharonot nous abreuve d'informations autour de l'affaire des documents top secrets remis au journal allemand Bild.
Une affaire que le Yediot Aharonot a décidé de bien monter en épingle grâce au concours de son journaliste enquêteur vedette Ronan Bergman, qui nous explique ce matin comment fonctionnaient les axes, le site par lesquels le document top secret dont on parle est arrivé jusqu'au Bild allemand. Et Bergman détaille dans son commentaire comment, je le cite, les tentatives de proches de Benjamin Netanyahou de semer des semi-mensonges et des semi-vérités afin de justifier le refus de Netanyahou de parvenir à un accord sur la libération des otages et de freiner le mouvement de protestation contre le Premier ministre.
Et justement, le mouvement de protestation est présent aussi dans les pages du Yediot et du Israel Hayom, puisque les trois personnes soupçonnées d'avoir tiré des fusées éclairantes vers la villa de Netanyahou à Césarée sont des protestataires.
Oui, effectivement, le Yediot Aharonot et d'ailleurs l'ensemble des sites d'information annoncent que la garde à vue des trois suspects a été prolongée de 5 jours. La police les accuse d'infractions à caractère terroriste et ils sont détenus séparément. Ils ont voulu frapper le symbole du pouvoir et ont mis en danger des vies humaines, expliquent les journaux israéliens. Le Yediot annonce que demain, la Commission pour la Sécurité Nationale va débattre des menaces qui pèsent actuellement sur le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Shai Golden écrit ce matin dans le Israel Hayom: n'ayez pas l'air surpris, l'incitation à la haine est aujourd'hui encore plus plus forte qu'elle ne l'était en 1995, à l'époque de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Quant à Ethan Hor-Hokibi, toujours dans le Israël Hayom, il accuse nommément les gardiens de la démocratie israélienne d'avoir développé une forme de consortium de haine et de destruction. Fin de citation.
Nahum Barnea consacre son éditorial en première page aux résultats des élections qui ont propulsé Donald Trump à la Maison Blanche.
Oui, Nahum Barnea écrit ce matin « Si j'étais américain, je n'aurais certainement pas voté Trump. Rien dans la biographie de cet homme ne m'inspire et pourtant, je suggère aujourd'hui deux noms, une chance à Donald Trump. D'abord parce que, et surtout parce que les électeurs américains l'ont voulu et qu'il a conquis également les deux chambres du Congrès. De facto, il pourra faire ce qu'il veut au pouvoir. Et l'on peut se demander justement ce qu'il fera de ce pouvoir absolu. Personne ne le sait véritablement, peut-être pas même lui. Qu'est-ce qu'il va dominer dans sa politique prochaine orientale, l'interventionnisme ou au contraire le séparatisme, c'est qu'est-ce qui va dominer les proches qu'il a placés ou les valeurs qu'il n'a pas, se demande Nahum Barnea sans véritablement apporter de réponse à ces questions.
Et puis nous terminerons cette revue de la presse, Daniel, avec le jeune Eretz Calderon qui fête ses jours-ci à sa bar mitzvah.
Oui, effectivement, Eretz est le jeune fils d'Hadas et d'Ofer Calderon. Hadas Calderon, que l'on connaît bien puisqu'elle est francophone, franco-israélienne. Et il a été détenu, Eretz, pendant 52 jours dans les caves du Hamas, dans la bande de Gaza. Eretz s'apprête à célébrer sa bar mitzvah. Et l'un de ses proches, Noam Dan, écrit ce matin dans le Israel Hayom que le seul cadeau qu'il désire recevoir dans le cadre de sa bar mitzvah, c'est de retrouver son père, Ofer, qui est détenu par le Hamas depuis maintenant 409 jours. Et Noam Dan ne ménage pas d'ailleurs le Premier ministre et se demande pourquoi, alors qu'il y a 101 otages détenus toujours à Gaza, personne n'est capable de les protéger depuis 13 ans.
Merci Daniel, on vous retrouve demain pour faire un nouveau point complet sur l'actualité en Israël.
Le direct de Jérusalem vous a été offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël. Depuis le 7 octobre, les victimes du terrorisme sont la priorité du Keren Hayesod. 300 000 déplacés, une population entière traumatisée. Les besoins sont immenses. Aidons-les.
Keren-ayesod.fr.
Ensemble, nous vaincrons.
Radio J, le 6-9, Charlène Villemer.
7h36 sur Radio J. Excellent réveil à notre écoute. La matinale, c'est jusqu'à 9h. On est lundi, c'est vrai, mais je vous donne quand même le problème, l'actualité de la semaine et notamment au cinéma. Il y a en ce moment trois amis d'Emmanuel Mouret. Je vous donne le synopsis, je vous plante le décor. Johan, Alice et Rebecca ressentent différemment leur relation amoureuse, amour raisonné ou passionnel. La disparition du compagnon de l'une d'entre elles va chambouler complètement la vie de ses trois amis. Mouret observe avec justesse l'humain dans ce qu'il n'est pas binaire. Son élégance et sa fantaisie convoquent Keaton, Chaplin ou encore Tati. Carla et moi également. Ben Cantor, à la synagogue, très affecté par le décès de sa femme, en a perdu la voix. Un jour, Carla, son ancienne prof de musique, le sollicite alors dans le désir de réaliser sa bat mitzvah. Une relation qui enfin stimule de nouveau. Et puis les biopics également. Monsieur Aznavour avec le rôle légendaire de Tahar Rahim. Également Lee Miller que vous pouvez voir. Je l'ai vu récemment. Il est très très bien. Elle est parfaite dans le rôle. Et puis The Apprentice également, puisqu'on parlait de Donald Trump justement. On revient sur la vie de Donald Trump qui revient aux affaires. Ali Abassi revient sur les débuts du président qui était incarné par Sébastien Stan. C'est le programme de votre cinéma. Le programme sur Radio J, je vous le donne tout de suite. Dans quelques instants, nous allons recevoir Christophe Barbier comme chaque lundi pour l'édito politique. Il sera avec vous, Eva Soto. Et puis juste avant, on se détend avec un petit peu d'humour. Nicolas Raffal et puis sa plume tantôt musicale seront avec nous ce matin. On verra ce qui nous réserve comme surprise. On revient dans quelques instants sur Radio J.
Radio J.
Bonjour, c'est Lise Goodman.
Le 10-11, Lise Goodman.
Ravie de vous retrouver tout à l'heure au programme Judaïsme, divertissement, communauté.
Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais.
Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr.
Tzedaka.fr.
La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir.
Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Je n'ai pas dit mes derniers mots. Un seul en scène de Bernard Bitton. Un spectacle percutant, engagé et émouvant. Bernard Bitton met des mots sur les mots du peuple juif.
Bernard Bitton revient avec son spectacle à l'Écuge. Lundi 18 et jeudi 21 novembre à 20h30.
Écuge, 119 rue Lafayette, Paris 10. Réservation sur écuge.fr.
Écuge.fr.
Je n'ai pas dit mes derniers mots de Bernard Bitton.
Spectacle d'actualité et solidaire d'Israël. En partenariat avec Radio J.
Écoutez le 6-9, Charlène Villemer.
Excellent réveil à notre écoute sur Radio J. Ils sont arrivés, ils sont en studio, Christophe Barbier et Nicolas Raphaël sont avec nous. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Nicolas Raphaël, c'est à vous pour l'instant, humeur, faites-nous rire.
Eh oui, il est tôt encore, il est trop tôt pour rire peut-être à Mar-a-Lago, Floride. Lieu de la petite bicoque des Trump, le cabanon de pêcheurs, austère, près des Keys où Mélania dort encore. Elle ne devrait pas tarder à se réveiller, elle qui écoute tous les matins Radio J, et notamment le barbier du matin rêvant d'être invité par Christophe pour parler de son dernier livre,
quand
ses mémoires,
veux, Mélania.
Quand elle veut, voilà. Sorte de pamphlet solzhenitsynien sur sa jeunesse en Slovénie pendant le régime communiste, régime qui a fonctionné en rendant ce livre aussi mince que la taille de guêpe de la désormais ex-future First Lady. Dans quelques minutes, la longiligne et rutilante slovène s'étirera d'un geste gracieusement chorégraphique et extraira du leaking size son 1m80 en défroissant à peine le drap de soie qui semblera lui aussi s'être fait injecter de cet amidon qui donne cet aspect plat aux choses. Elle sortira du lit, le derme lisse et la fesse tirée. Déjà coiffée comme dans un soap américain, elle contemplera le relief pachydermique de son mari à la moumoute républicaine, puis ira chaussée de mules Bottega Veneta en fin cuir de veau que ne dérange nullement ses 5 doigts de pied miraculeusement alignés. Elle ira tirer le rideau de cachemire pour voir la lumière se lever sur le trou numéro 18, tandis qu'au loin des alligators républicains vagissent et se repaissent de quelques domestiques démocrates et autres présentateurs de CNN dans une ambiance de carte postale à la David Hockney. Car oui, l'alligator vagit quand il est repu, contrairement à Mélania qui ne fait strictement aucun bruit lorsqu'elle est repute. Mais où veux-je en venir ? C'est alors qu'elle songera, comme en elle-même, « Ozagre mesad yakonai bol yechtoznach, nemoitse nortitsi damedash ».
Waouh, comment il slovène. Fait bien, Mélania.
C'est presque comme du serbo-croate. « One nebrini pročice zatrenja sam samo malolude za ljubjen », ce qui peut se traduire par « Mais qu'est-ce que je fous avec ce con ?» Ah oui, l'argent, c'est ce qu'elle se dit. Elle se le dit en slovène. Hein. On ne peut pas juger deux personnes qui s'aiment. La Floride et même les États-Unis sont trop petits pour deux personnes qui s'aiment d'un amour avec autant de zéro. Il y a cette magie inexplicable, cette poésie de l'Iban. Moi, par exemple, si vous êtes sensible à ça, mon Iban, c'est FR76-4001-2101. C'est magnifique, non ?
Ah bah, on peut vous faire un virement.
À la banque postale, en plus. Hein.
Ah, on peut vous faire un virement.
Mais grand bonheur. Donc, Mélania se dit, dans cette vérité introspective qui n'a d'égal que les vicissitudes du petit épargnant, mon Dieu, qu'est-ce que je vais mettre le 20 janvier pour l'investiture ? Percluse d'inquiétude, elle ira alors prendre en photo ses mules en cuir de veau produites dans le plus strict respect des droits du veau arraché superbement à sa mère, car elle n'a plus rien à se mettre. Donald ne lui donne plus rien, les étrangers dehors. Bon, qu'elle reste dans le lit, d'accord, mais qu'elle vienne pomper le compte en banque, niette. Peut-être appeler Elon, histoire de lui taper 100 balles. Puis elle ira au Pilate, lundi, ses fessiers. Elle attendra désespérément le coup de fil de Christophe qui ne viendra jamais. Dommage.
Ah ouais, dommage.
Dans ses mémoires, véritable brûlot politique qui regorge d'indices et qui à eux seuls décrivent de manière passionnante l'époque instable qui est la nôtre, Mélania ne se montre jamais avare de commentaires acérés en décrivant longuement, que c'est long, sa principale contribution en tant que première dame à l'histoire moderne des États-Unis, la décoration de la Maison Blanche. C'est passionnant, la déco. Dans le livre, elle se défend de n'avoir pas dénoncé la violence le 6 janvier 2021, lorsque les pro-Trump prenaient d'assaut le Capitole, en expliquant qu'elle était concentrée sur ses travaux de déco.
Ah ouais.
Après tout, qu'est-ce que 5 morts par rapport à la beauté d'une pose de moquette dans le bureau ovale, franchement. Puis plus tard, dans la matinée, elle écoutera du Offenbach, son compositeur préféré. Elle se dit que ça fera venir l'appel de Christophe, lui qui joue au Offenbach en ce moment au Théâtre de Poche. Allez-y, c'est le moment de la promo, Christophe.
Tous les jours de la semaine, oui, voilà. À 19h au Théâtre de Poche.
Du mardi au samedi, même le dimanche, il y a des invitations pour toutes les personnes qui se prénomment Mélania et qui appellent au standard.
Et qui sont slovènes.
Voilà, c'est ça. Il est tôt encore à Mar-a-Lago, Floride. C'est encore la belle nuit d'amour là-bas. la nuit plus douce que le jour. Mélania, m'entends-tu? Mélania, où es-tu?
Eh bien, merci à vous, Nicolas Raphaël. On vous retrouve lundi prochain pour un nouveau billet et puis peut-être un nouvel accent. Qui sait? À suivre sur Radio J. Christophe Barbier est avec nous pour son édito politique au micro d'Eva Soto.
Les grands débats commencent sur Radio J.
Sur Radio J.
Comme tous les lundis, on a rendez-vous pour l'édito de Christophe Barbier. Bonjour Christophe.
Bonjour Eva, bonjour à tous.
Christophe, Joe Biden annonce l'autorisation d'usage par l'Ukraine de missiles à longue portée, missiles qui pourraient donc frapper profondément en Russie. Est-ce que c'est un tournant dans la guerre et surtout, à quoi il est dû?
Oui, incontestablement, c'est un tournant tactique. Alors, on va en regarder les raisons. Il est dû à plusieurs choses. L'évolution sur le terrain, à l'avantage de la Russie. Les événements récents, notamment une volée de missiles ces deux derniers jours sur l'Ukraine, envoyés par la Russie. Des missiles aussi qui ont atteint la profondeur du territoire, c'est-à-dire l'ouest de l'Ukraine. On a même vu la Pologne envoyer ses avions de chasse pour protéger sa frontière. Et puis, c'est dû aussi à ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire la victoire de Trump. Biden est encore président pour moins de 2 mois. Il tient à montrer à Poutine qu'il n'est pas paralysé par cette situation. Néanmoins, il ne faut pas attendre un renversement de la guerre grâce à l'autorisation d'usage de ces missiles. L'effet sera limité, disent les experts. Les Ukrainiens utilisent une expression très éloquente. Ils disent « nous devons frapper l'archer plutôt que de frapper la flèche ». Et donc, en effet, ces missiles peuvent atteindre le territoire russe, mais pas Moscou ou Saint-Pétersbourg. Ils vont essayer de frapper les bases de missiles qui viennent en profondeur en Ukraine faire des dégâts, notamment des dégâts civils. On a vu ce week-end les missiles cibler tout l'appareil énergétique de l'Ukraine. Pendant ce temps-là, la Russie va continuer sa tactique de grignotage sur le terrain qui lui rapporte beaucoup au prix de pertes humaines très très lourdes. Peut-être que le véritable tournant tactique arrivera au printemps, quand il y aura beaucoup d'avions disponibles pour l'Ukraine, mais où en sera-t-on au printemps?
Christophe Barbier, on a vu hier soir ces déclarations d'Emmanuel Macron qui est en tournée en Amérique latine sur le tarmac de l'aéroport. On les a diffusées d'ailleurs ce matin dans les éditions sur Radio J. Emmanuel Macron qui dit il faut permettre à l'Ukraine de se défendre. Qu'est-ce qu'il dit, Emmanuel Macron, quand il dit ça? Il présage un bras de fer avec Vladimir Poutine? Il présage un bras de fer peut-être avec Donald Trump? Ou rien à voir avec ça?
Le président de la République continue à s'inscrire dans l'idée d'une guerre longue qui va durer. Il continue à penser que c'est par la pression militaire qu'on peut éventuellement avoir une solution diplomatique favorable pour l'Ukraine. Il a toujours dit, attention, quand on dit que quelque chose ne peut pas être utilisé, 15 jours ou 2 mois après, eh bien on l'utilise. Ça a été le cas de certains missiles, ça a été le cas des blindés, ça a été le cas de l'aviation, etc. Donc de ce côté-là, le président a fait preuve d'un réalisme. On lui a même reproché une certaine forme de cynisme. Rappelez-vous, quand il avait dit, on ne peut pas exclure d'avoir des troupes de l'OTAN sur le terrain. Néanmoins, on sent bien qu'il y a un tournant qui est arrivé dans cette guerre, mais il ne s'est pas joué à Kiev ni à Moscou, il s'est joué à Washington. L'élection de Trump change la donne. L'homme qui a dit en 24 heures, je réglerai cette guerre et qui va arriver aux commandes le 21 janvier, que fera-t-il et avec quel résultat?
Quand Donald Trump dit « en 24 heures, je vais régler cette guerre », ça veut dire que en 24 heures, l'Ukraine va capituler et la Russie obtiendra ce qu'elle veut?
Non, ça veut dire qu'en 24 heures, Donald Trump imposera l'idée d'une partition provisoire de l'Ukraine. Nous avons vécu pendant plus de 40 ans avec une Allemagne coupée en deux. Nous vivons depuis 1953 avec une Corée coupée en deux. Nous vivons depuis plus de 50 ans avec une île de Chypre coupée en deux. Est-ce que la planète s'arrête de tourner? Et puis un jour, l'histoire avance et l'Allemagne s'est réunifiée. Peut-être qu'un jour, la Corée sera réunifiée. Voilà ce que nous dit Trump quand il dit « j'arrêterai la guerre ». C'est-à-dire « j'arrêterai ». De faire la guerre, j'essaierai d'arrêter les combats. Ça ne veut pas dire que le conflit entre Ukraine et Russie cessera et que les revendications ukrainiennes sur l'est de son territoire et sur la Crimée disparaîtront.
Alors justement, Olaf Scholz téléphone à Poutine pour négocier une paix raisonnable avec l'Ukraine. Et Poutine, sa réponse, c'est d'envoyer une pluie de missiles sur l'Ukraine. Gênant, non?
Oui, c'est gênant. Ça rappelle la phrase de Mitterrand, vous savez, quand on devait déployer des Pershing missiles américains, des Pershing face au SS-20 soviétique. On était au début des années 80, et Mitterrand avait dit, vous savez, les pacifistes sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. Bah là, oui, on a un Olaf Scholz, un pacifiste, qui a dit, allez à Poutine, on va négocier, on va arrêter la guerre. Et puis Poutine a répondu par une pluie de missiles. Mais qui est Olaf Scholz aujourd'hui? Est-il encore chancelier de l'Allemagne? Sa coalition a volé en éclats. On va vers des élections anticipées. Il n'a plus vraiment les moyens de peser. Il est en campagne, donc c'était un propos de campagne électorale. D'ailleurs, il n'y a pas eu de réaction officielle de la France à cette initiative d'Olaf Scholz. On considère que ce n'est pas une initiative ni du chancelier officiel, ni du couple franco-allemand, ni de l'Union européenne. C'était un coup d'épée en l'eau destiné à la politique intérieure allemande, destiné peut-être aussi à Trump. Moi, Scholz, je dis à Donald Trump, bah, si tu veux un partenaire pour négocier une paix rapide, je veux bien en être. Scholz, c'est un peu prévendu à Trump.
Justement, Trump, ça change les choses. Vous l'avez dit, Christophe Barbier, Donald Trump, c'est un nouvel ordre mondial qui se dessine, un ordre mondial qui tourne le dos à l'après Nuremberg.
Non, je ne dirais pas qu'il tourne le dos. Je pense que Donald Trump n'en a rien à faire du XXe siècle et veut réécrire en effet les codes du XXIe siècle diplomatique. Il procède par la force, il procède par des effets cash, c'est-à-dire je dis ce que je pense et je dis ce que je suis prêt à faire. Par exemple, la Corée du Nord a un bouton nucléaire mais mon bouton est plus gros que le sien. Vous voyez, des phrases comme ça qui ne sont pas exactement dans l'usage diplomatique, non seulement depuis Nuremberg mais même depuis le traité de Westphalie. Vous voyez, ça nous remonte à très très loin. En revanche...
Est-ce que c'est dangereux?
Écoutez, les quatre premières années passées à la Maison-Blanche par Trump, est-ce qu'elles nous ont apporté la guerre mondiale? Non. Pourquoi? D'abord parce que derrière les mots parfois un peu brutaux auxquels on n'est pas habitué, il y a une réalité diplomatique qui continue. Et puis parce qu'il y a eu un État derrière Trump, une maîtrise de l'État américain par les élus au Congrès, au Sénat, et puis par l'administration.
Est-ce que c'est
ça le risque aujourd'hui?
Oui. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui parce qu'il a les deux chambres?
Il a les deux chambres, mais le Parti républicain qui a porté Trump, faute d'autres candidats, va quand même essayer de récupérer un peu la maîtrise des choses. Et puis dans l'administration, on va voir qui il arrive à faire nommer. La première brochette de nomination est assez inquiétante, mais il faudra regarder ça en profondeur et surtout au jour le jour. L'État américain est un État à profonde résilience. Et puis il faut avoir un espoir, c'est que les républicains se disent, bon, Trump a été élu, mais la fois suivante. Et donc on doit reprendre le contrôle. On doit détrumpiser le Parti républicain tout doucement pour pouvoir essayer de placer quelqu'un la prochaine fois. Parce que Trump, même s'il a le droit de se représenter, ne sera peut-être pas en âge de le faire.
Alors, dans ce contexte mondial bouleversé, il y a aussi l'actualité en France, l'actualité en Europe, l'actualité qui nous concerne à Radio J avec Benjamin Haddad, le ministre des Affaires européennes, qui veut organiser une réunion contre l'antisémitisme au niveau européen. Pourquoi faire?
Pour essayer de contrôler cette pieuvre souterraine qui s'appelle l'antisémitisme en Europe et qu'on a vu ressurgir si violemment depuis le 7 octobre. Il y a eu Amsterdam et ce qui s'est passé à Amsterdam, cette chasse aux juifs pendant la nuit, ça ne doit pas laisser indifférent. Donc c'est intéressant, c'est important de réunir les 27 pour dire qu'est-ce qu'on fait ensemble, pour identifier les groupuscules néo-nazis, pour voir ce qu'on peut développer comme projet pédagogique, pour déraciner l'antisémitisme dans la tête des jeunes gens, pour travailler une population qui est de plus en plus elle-même soumise à la pression d'un islamisme politique. Et c'est là le point le plus intéressant. C'est que les institutions européennes depuis de nombreuses années sont complaisantes à l'égard des puissances islamistes du monde, des associations islamistes qui arrivent parfois même à avoir des financements de l'Union européenne. Donc il y a, derrière la volonté de Benjamin Haddad, faire en sorte que Amsterdam ne se reproduise pas, il y a aussi la volonté de neutraliser des personnages comme Rima Hassan. Et ça, c'est extrêmement important. Si on arrive à le faire, eh bien Benjamin Haddad n'aura pas perdu son temps.
En même temps, les dissensions entre la France et Israël, elles continuent.
Oui, je pensais que le match France-Israël était un véritable tournant, que l'affichage de la solidarité politique totale de la France avec Israël, le match a été maintenu, les plus grandes autorités politiques étaient là, la sécurité a été impeccable, c'était un tournant. D'autant qu'au même moment, il y avait eu un différend très sévère avec la présence de gardes armés israéliens au monastère Eleona lors d'une visite de Jean-Noël Barrot. Bon, l'ambassadeur israélien, il s'est expliqué chez nous, a été convoqué, on a mis les choses à plat et tout continue peut-être mieux qu'avant. Et puis patatras, un nouvel incident, il y a eu la démolition d'un centre culturel de l'association Al-Boustan à Jérusalem-Est, financé par, en partie, l'aide de la France, et la France désapprouve évidemment cette destruction. Qu'est-ce que cela nous dit? Ça nous dit qu'il n'y a pas de conflit franco-israélien. Il y a un conflit envenimé depuis plusieurs mois entre le gouvernement français et le président, et le gouvernement israélien.
Donc, la France se met dans une posture presque de critique de la politique intérieure israélienne telle qu'elle est menée. Elle désapprouve la manière dont Benjamin Netanyahou mène la guerre, notamment au Liban. Elle désapprouve la manière dont Benjamin Netanyahou et son gouvernement gèrent la Judée-Samarie, que d'autres appellent la Cisjordanie, et gèrent les colonies, c'est-à-dire les implantations. Il y a là un véritable différent, mais qui se réglera quand ? Bah, en 2026, avec les élections en Israël, peut-être, et puis en 2027, avec les élections présidentielles en France.
Ce désaccord, est-ce qu'il est nouveau, finalement ?
Non, c'est un désaccord très ancien. Sous De Gaulle, peuple sûr de lui et dominateur, on avait un désaccord encore plus profond, puisque là, c'était la nature même d'Israël qui était mise en question. Non, c'est un différent qui est aussi fécond. Parce que quand on se dispute, vous n'avez pas le droit de faire ça, on n'est pas d'accord avec ça, bah, on discute sur l'essentiel. Empêcher l'Iran d'avoir la bombe, garantir l'existence d'Israël, lutter contre l'antisémitisme partout, en Israël, en France, en Europe, dans le monde, voilà, on est du même côté et c'est l'essentiel. Il est assez logique, compte tenu de leurs options politiques et philosophiques profondes, que des individus comme Netanyahou et Macron n'arrivent pas à s'entendre.
On peut aussi rappeler ce fameux épisode de Jacques Chirac dans les ruelles de Jérusalem. Et Jacques Chirac qui avait reconnu aussi la responsabilité de la France dans la rafle.
Voyez, le chaud et le froid.
Voilà. Christophe, c'est aujourd'hui le début aussi des plaidoiries au procès du Rassemblement National. Après le réquisitoire sévère à l'encontre de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens, est-ce quitte ou double pour elle ?
Oui, s'il y a exécution provisoire. La culpabilité des membres du RN, mais on va voir ce que décide le tribunal dans quelques mois, mais les faits sont accablants. Si culpabilité il y a, l'inéligibilité, elle est automatique, elle est prévue dans la loi, sauf si le tribunal trouvait une excuse pour ne pas la donner. Mais ce qui n'est pas inscrit dans la loi, c'est l'exécution provisoire. Si vous êtes inéligible, mais que vous faites appel, que ça suspend, puis qu'après vous allez en cassation, et puis après peut-être en Cour européenne des droits de l'homme, vous pouvez continuer votre parcours politique malgré une inéligibilité prononcée mais non appliquée. S'il y a exécution provisoire, à tout s'arrête. Marine Le Pen quitte à l'instant même l'Assemblée nationale et ne peut plus se présenter à aucune élection.
Ce qu'il faut remarquer aussi, c'est la défense de Marine Le Pen dans ce procès. Marine Le Pen, qu'on a vu dans des séquences qui ont été abondamment relayées sur les réseaux sociaux, où elle accusait les gens qui piquent dans la caisse, où elle mettait en cause les affaires. Les Français en ont marre, non pas d'entendre parler des affaires, mais des affaires elles-mêmes. Qu'est-ce que ça nous dit, là, aujourd'hui, la défense qu'elle utilise ?
Tête haute et main propre, le slogan du FN, il est vraiment plus utilisable du tout. Même si, en effet, elle a raison de le dire, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Mais ça montre aussi la limite de sa défense. Sa défense, c'est de dire c'est un procès politique. Martin Schulz, président socialiste du Parlement européen, voulait notre peau, la justice veut notre peau, les politiques veulent... Non, ce n'est pas un procès politique, c'est un procès technique. Avait-il le droit d'utiliser l'argent du Parlement européen pour payer des majordomes, des gardes du corps, des secrétaires et des petites mains ? Bah, visiblement, non. Ils devront donc s'en expliquer. Maintenant, elle joue aussi cette défense-là parce qu'elle se dit « ma seule chance, si je suis inéligible, bah, c'est de provoquer une espèce de révolte dans le pays sur l'atteinte à mon droit de me présenter. »
C'est du trumpisme ?
Oui, c'est une forme de trumpisme. C'est-à-dire, au-dessus du droit, il y a le peuple. Mon peuple. Le peuple de mon populisme. Et exactement comme Trump, pendant 4 ans, a combattu la justice en mettant en face eh bien, sa popularité et ses troupes, Marine Le Pen veut faire la même chose. Sauf qu'on n'est pas aux États-Unis. L'inéligibilité, si elle est prononcée avec exécution provisoire, cette inéligibilité, elle sera effective avant 2027.
Merci beaucoup Christophe Barbier. Christophe Barbier qu'on retrouve donc chaque lundi dans son édito et puis tous les jours sur Radio J pour votre interview politique. Demain, l'invité sera...
Franck Riester.
Merci.
Et merci à vous, Eva Soto.
Radio J. Retrouvez le Barbier du matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Radio J.
Bonjour, c'est Annabelle Chaud. Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi de 15h à 16h20 avec un invité dans mon émission sur Radio J. Interview, confidences, jeux, défis. Vos artistes comme vous ne les avez jamais entendus, c'est dans le Annabelle Chaud, le late show de l'après-midi, du lundi au jeudi à 15h sur Radio J. Radio J.
Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais.
Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr.
Tzedaka.fr.
La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir.
Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Vous écoutez
Radio J.
Radio J.
Montez le son.
Vous écoutez Radio J.
Ça, c'est uniquement sur Radio J.